Il n'y a plus aucun paysage primitif et inviolé sur Terre depuis des milliers d'années. Un bon chasseur va toujours chasser avec WhatsApp. Et je pense qu'on fait tous du tourisme d'extinction. Bienvenue sur AnthroStory.
AnthroStory.
Le voyage est, pour moi, toujours une magnifique opportunité pour parler avec des gens, que ce soit d'autres touristes comme moi ou des locaux, et de nourrir mon imaginaire autant que la super méga liste de questions que je me pose. J'ai eu l'occasion, je vous en parlerai à la cool dans un prochain épisode, quoi peut-être non, enfin on verra, de faire le tour de Flores, une île indonésienne qui est, pour faire ultra simple, entre l'île de Bali et celle du Timor et qui touche, à l'ouest, le parc de Komodo. Flores jouit encore, contrairement à Bali, d'une idée d'île préservée, pas trop touristique, voire avec un côté sauvage. Du coup, une des remarques que j'entendais le plus à Flores, je dis entendais parce qu'actuellement je suis à Lombok, enfin pas vraiment, quand j'enregistre je suis en Suisse, mais quand j'ai écrit ça j'étais à Lombok, une île entre Bali et Flores, c'était un truc du genre, pourvu que l'île reste comme ça, que ça ne devienne pas Bali, qu'elle reste un peu sauvage, inviolée, préservée. Ouais, ok. Passons le fait que je doute que Flores soit si préservée que ça, vu le nombre de rizières plutôt important, que l'île est traversée sur sa longueur par la Transflores, une route goudronnée de 600 km, et qu'il y a la 3G presque partout. Non. La vraie question qu'il faut se poser et qu'on va se poser dans ce podcast, elle est plus fondamentale. Existe-t-il encore des endroits vierges, inviolés, préservés? Mauvaise nouvelle. Non, il n'existe plus. Je vous vois venir. Dans vos têtes, je vois apparaître les mots colonialisme, envahisseur, non-respect de la nature, exploitation, capitalisme, mondialisation. Oui, mais non, vous n'y êtes pas vraiment. Dans l'article qui a pour titre, traduit en français, « Les paysages préservés n'existent plus depuis des milliers d'années à cause de l'activité humaine », le site Popular Archaeology revient sur cette idée qu'on a de la peine à défaire, celle d'un temps où tout était pur et préservé, et encore pire, l'idée que tout n'a été modifié que dans les dernières dizaines ou centaines d'années, généralement par les méchants blancs colonisateurs qui cassent tout. Avant de continuer sur le sujet, je veux juste poser une idée, parce qu'elle donne toute son importance à la question de la nature préservée. Si la nature, entre guillemets, disons les coins non recouverts de béton, a été modifiée, et ce depuis des milliers d'années, ça veut dire quoi exactement la préserver? Je vous laisse 5 secondes. On y reviendra. Passons à l'article. L'étude, publiée sur le journal Proceeding of the National Academy of Science, a collecté les datas de 30 ans d'archéologie, pour savoir comment l'activité humaine avait modifié le paysage sur des milliers d'années, notamment la distribution des espèces sur les continents et les îles. L'étude, par le docteur Nicole Boivin de l'Université d'Oxford et du Max Planck Institute for the Science of Human History, avec des chercheurs du Royaume-Uni, des US et de l'Australie, suggère que des preuves archéologiques ont été oubliées des débats actuels sur la conservation de l'environnement. Dire que les sociétés d'avant l'ère industrielle n'ont eu qu'un petit effet sur l'environnement et sur la diversité des espèces est une erreur. L'étude se sert notamment d'études génétiques comparatives, de l'étude d'isotopes stables, des microfossiles ainsi que de nouvelles méthodes statistiques et de compilation des données. Ces données montrent que beaucoup d'espèces de plantes, d'arbres et d'animaux qui sont encore là aujourd'hui sont celles qui ont été favorisées par nos ancêtres, et que les autres se sont éteintes massivement il y a des milliers d'années à cause de la surchasse et des modifications de l'environnement par l'humain. Et que c'est pour ça qu'il faut être plus pragmatique dans nos efforts de conservation et ne pas nous focaliser sur le maintien impossible d'un état « naturel » entre guillemets, de l'environnement. L'étude identifie quatre phases majeures dans la modification de l'environnement par l'humain. L'expansion humaine globale durant la fin du Pléistocène, la propagation de l'agriculture au néolithique, la colonisation des îles, l'émergence des premières sociétés urbanisées et du commerce. Pour les lecteurs de Jared Diamond, et c'est moi qui rajoute, la suite ne vous étonnera pas. Avec la colonisation de la Terre par les humains, on constate une diminution, voire à des extinctions d'un grand nombre d'espèces et de variétés, une des plus significatives étant la réduction des deux tiers des 150 espèces dites de mégafaune. Pour s'y signaler un exemple local pour moi actuellement, et je rajoute aussi, aujourd'hui, les dragons du Komodo sont surtout localisés sur l'île de Komodo et celle de Rinka, même s'il semble y en avoir dans les endroits isolés de l'île de Flores. J'aurai l'occasion de vous en parler dans un prochain épisode, peut-être, mais avant, il semble qu'ils aient été bien plus présents en Indonésie. Globalement, il y en avait partout, jusqu'en Australie, et il y en a encore, par exemple, pas vraiment des dragons du Komodo, mais des trucs du genre en Malaisie. C'est pas vraiment les mêmes, hein, pour être précis, hein, mais c'est le même style de bestiole, de loin pour quelqu'un qui n'est pas biologiste. On en trouve des fossiles, par exemple, dans la grotte dite des Hobbits, dont vous avez peut-être entendu parler, ou de l'homme de Flores, à plus de 100 km des côtes. Il semble que son habitat ait beaucoup diminué parce qu'une de ses proies favorites, une sorte de petit éléphant, s'est faite rare, puis s'est éteinte, en partie chassée par les hommes et possiblement éteinte sur Flores suite à une éruption volcanique. En tout cas, c'est une explication qu'on trouve dans le petit musée de Luanbua, près de Ruteng. J'ajoute juste que je viens de voir sur Reddit qu'il y a encore des nouveautés par rapport à l'homme de Flores, etc. Donc, tout ce que je raconte là n'est pas vraiment faux, mais c'est à prendre entre guillemets avec des pincettes, comme on prend des recherches actuelles. Il y a notamment un problème de datation, visiblement quelque part, entre les études par rapport à l'homme de Flores, mais ça change pas vraiment ce que je veux dire par rapport à ça. Mais si vous écoutez ça dans 2 ans ou 3 ans, allez refaire un check sur l'homme de Flores pour savoir où ça en est. En fait, cette situation avec l'homme de Flores, et surtout du dragon du Komodo, c'est un peu l'effet papillon. On en trouve de nombreux exemples dans l'histoire de l'humanité. Une modification dans l'environnement par l'humain, en l'occurrence la chasse, parfois accélérée par des phénomènes naturels, en l'occurrence possiblement un volcan, qui font disparaître des espèces et rendent, du coup, vulnérables les autres. C'est justement la première phase de ce que mentionne l'article. L'humain qui se disperse sur la Terre et cause l'extinction d'espèces, pas seulement de faune d'ailleurs, mais aussi de flore. Et c'est encore pire dans le cas de Flores, puisqu'il s'agit d'une île. Petite note encore de précision, parfois c'est compliqué avec les îles de savoir si on doit vraiment les classifier comme des îles ou pas, et c'est le cas de Flores, par exemple, pour moi, puisqu'elle a été liée à d'autres îles qui elles-mêmes ont peut-être été liées à des continents, et donc il y a toujours une histoire de timeline à quand on la définit comme une île. Mais en tout cas, maintenant c'est une île, et on va la prendre comme ça parce que de toute façon, elle était isolée, même si elle était raccordée de temps en temps à d'autres îles. Pour reprendre l'article, la seconde phase, c'est celle de l'agriculture, qui a aussi scellé le sort de grands nombres d'animaux et de plantes. Pensez, entre les moutons, les chèvres et les bovins domestiqués, les poules ou encore les chiens, avec des populations qui atteignent des chiffres astronomiques aujourd'hui, il ne restait plus beaucoup de place pour les pauvres animaux sauvages qui restaient. Ça a pris du temps, c'est pas instantané, mais les conséquences ont été monstrueuses. Dans la troisième phase, c'est les îles qui prennent cher, en l'occurrence comme celle de Flores. Chaque fois que l'humain colonise une nouvelle île, il amène avec lui ses espèces domestiques, le feu, la déforestation, un désastre pour les animaux indigènes. Pensez, vous larguez juste 2 poules et 1 coq sur une île déserte, et il n'y a pas besoin de grand-chose de plus pour tout changer. Ajoutez un couple de rats et c'est définitivement foutu pour avoir une île préservée. La quatrième étape est l'expansion des sociétés urbanisées, qui vont se mettre à l'agriculture massive, bien avant Monsanto, vont troquer des arbres « inutiles » entre guillemets, contre des essences à fort potentiel, vont raser des forêts pour y cultiver, en Europe par exemple, des oliviers, des vignes ou des figuers. Environ 80 à 85% des zones arables sont cultivées au Proche-Orient il y a plus de 3000 ans déjà. Les anciennes forêts de France, par exemple, sont fortement liées à des sites romains, ce qui relativise leur ancienneté, et une estimation récente dit qu'au moins 50 plantes comestibles, surtout des fruits, des herbes et des légumes, ont été introduites en Bretagne seulement pendant la période romaine. Encore une fois, les lecteurs de Jared Diamond ne sont pas perdus. Les autres, ben disons simplement que presque tout ce que nous voyons a été modifié, profondément ou en partie, par des générations d'humains avant nous. Et que c'est plus facile à détecter en plein Manhattan que dans une forêt dite vierge ou très ancienne, mais que c'est le cas dans les 2 endroits. L'article termine sur une idée plutôt intéressante. Si nous voulons améliorer notre compréhension de la gestion de notre environnement et de la conservation des espèces d'aujourd'hui, alors nous devons peut-être changer de perspective. Penser plus à la préservation de l'air pur et de l'eau pour les futures générations et moins à essayer de faire retourner la planète à sa condition « originale », entre guillemets. Ce qui est certain, c'est que ces études montrent qu'on a déjà été plus que capable de modifier notre environnement et de transformer radicalement notre écosystème. La question est de savoir quel type d'écosystème nous voulons créer pour le futur. Va-t-il suffire à notre survie et au bon état de santé des autres espèces, ou va-t-on vers d'autres extinctions massives et des changements climatiques irréversibles ? Revenons à mon intro. Les touristes qui pensent que Florès est préservé, ou qu'ailleurs c'est préservé, contrairement au chez nous, en Europe, qui est industrialisé et où on pense plus naturellement, ironiquement, qu'on a modifié notre environnement. Aucun de ces coins est inviolé, intouché, préservé, primitif. Ce qui n'empêche pas qu'on désire les préserver comme ils sont maintenant, ou qu'on veuille faire reculer le béton. Et si c'est vrai pour « la nature », entre guillemets, c'est aussi vrai pour la « culture » dans son sens large. Petit exemple, un parallèle, certes bancal, mais pas si loin de ce que je désire exprimer et questionner en reprenant cet article. Labuan-Bajo, ville portuaire effervescente de Florès, aux portes du parc Komodo, un potentiel touristique juste monstrueux. D'un côté de la ville, vous trouvez le fish market, juste après un marché où les pêcheurs viennent vendre leurs prises et où on trouve aussi du poisson séché. Imaginez une dalle de béton de 150 mètres de long, avec plein de petits stands qui vendent de la nourriture, des tables et des chaises en plastique, de petites étales où vous choisissez vos poissons à faire cuire au barbecue sur place, au bord de la mer. C'est pas hyper clean, il y a des locaux, les prix sont plutôt cheap pour Florès, le poisson est frais, les vendeurs parlent pas trop anglais. Si vous demandez un coca, ils iront le chercher au mini-market de l'autre côté de la rue. Avec le vent, c'est souvent enfumé en soirée, chaque stand ayant son petit feu. Plus loin, en ville, vous pouvez manger des pizzas cuites au feu de bois, des sushis et des tacos, entre deux centres de plongée avec vue sur la baie et des bars stylés. Entre les deux, vous choisiriez quoi ? C'est quoi le plus authentique ? Le fish market, bien sûr. Ça, c'est du vrai. Des familles qui se lèguent les emplacements depuis des générations, loin de la western food pour les bobos et touristes riches, incapables de choisir l'authentique. Pourtant, les deux sont aussi fake l'un que l'autre. Il y a 10 ans, il y avait la plage à la place du fish market. Et tous les samedis, on y dansait et peut-être, c'est vrai, on grillait un poisson ou deux entre potes. Je vous rassure, les poissons du fish market sont absolument délicieux à tomber. Tout comme les tacos d'ailleurs, mention spéciale pour les tacos au barracuda. Mais que faut-il faire ? Raser le fish market et y remettre une plage, parce que c'était mieux avant ? Raser le fish market un peu cracra et pas très beau et le remplacer par un truc clean ? Le laisser tel quel ? Cette question, évidemment, n'a pas de vraie réponse définitive, mais elle est fascinante. Et on la trouve à grande échelle, sur des villes et des parcs entiers, autant qu'à l'échelle de petits quartiers et petits villages. D'ailleurs, revenons à la forêt et à la chasse. Avec un article intitulé « Du Congo à l'Amazonie, les chasseurs parlent le même langage ». Parce qu'il se lie super bien avec la problématique de la conservation, ici de la faune, du premier article.
C'est sûr que la chasse, c'est un art. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais pour nous, c'est la chasse. C'est un art.
Selon John Fa, un chercheur associé du Center for International Forestry Research, le CIFOR, au Congo et en Amazonie, des millions de gens dépendent de la faune sauvage pour la nourriture, et la chasse et la pêche fournissent un large pourcentage de nutriments. En plus de nourrir les chasseurs et leurs familles, la vente de la viande ramène de l'argent qui sert à les protéger en cas de mauvaise récolte ou de crise économique, pour les frais de santé ou d'éducation. Fin de citation. C'est pour ça qu'il est vital pour eux de gérer le nombre de prises, qu'il n'y ait pas de surchasse, pour que l'écosystème soit, au pire, maintenu comme il est. D'autant plus que, par exemple, chasser trop certaines espèces va aussi réduire la diffusion de certaines graines dont ils se nourrissent et donc, à force, réduire le nombre de ces plantes qui servent aussi à la nourriture.
Ah ben c'est sûr, faut dire que quelque part la chasse c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur ?
Oh putain, c'est essentiel. Poète.
Par effet domino, les changements de végétation changent aussi la nourriture disponible pour certains animaux, rendant leur survie plus compliquée. Pour éviter ce genre de problème, il faut contrôler et gérer le nombre de bêtes tuées par chaque communauté. Le souci, c'est que s'ils savent très bien ce qu'eux-mêmes ont tué, qu'ils savent aussi ce que leurs voisins directs ont chassé, ils ne savent pas du tout ce que la communauté a chassé en totalité. Pour récupérer les données et pouvoir fixer les quotas de chasse, les chasseurs utilisent soit des carnets de notes, soit des applications sur smartphone pour faire du tracking. on trouve un peu plus d'informations sur l'app en question dans un article titré « La chasse au gibier en Amazonie ? Il y a une app pour ça ». On y trouve le terme « Adaptive Management », une méthode qui consiste à prendre en compte les incertitudes comme les changements climatiques et autres via un monitoring précis et un apprentissage dans les calculs de quotas et la gestion des populations animalières. Ouais, ça fait un peu bizarre de penser qu'un chasseur en Amazonie entre des données sur un smartphone et laisse un algorithme gérer son quota de chasse. Mais le truc le plus important, c'est de se dire que le chasseur n'a jamais une vision globale. Seules des données précises récoltées sur un grand territoire peuvent donner une idée précise de l'état de la faune. Dans une région précise de l'Amazonie, entre les rivières Loreto-Yaku et Amakayaku, les chasseurs ont tracé plus de 100 km de pistes de chasse, 40 camps de chasse et 20 sticks de sel, utilisés pour attirer certains animaux, et d'autres endroits de chasse clés. Ils ont aussi identifié quels animaux ils chassaient, les oiseaux, les animaux, les paras, les agoutis, les cerfs, les tapirs, les pécaris et les fourmiliers. Certains lieux de chasse sont proches de la ville de Puerto Narino, une ville qui a plus de 7000 habitants. Pour d'autres, il faut naviguer plus d'un jour et demi par bateau. Au début, ils utilisaient des carnets de notes pour le tracking des prises. Mais c'est pas top sous la pluie et pas si facile pour ceux qui manquaient de formation. Une app, étrangement, c'est beaucoup plus facile. Chaque fois qu'un chasseur tue une bête, l'app le guide dans une suite de questions. Où il a chassé, combien de temps il a dû marcher, quand il est parti et revenu chez lui, quel animal il a chassé, quel était son poids, dans quel type de forêt il est, combien de munitions il a utilisé, combien de viande il va manger avec sa famille, combien il va en offrir ou en vendre et d'autres détails. Pour ceux que ça intéresse, ils utilisent une app appelée Kobo Collect, customisée ensuite. Les données ont, par exemple, servi à comprendre comment la population animale était affectée par les crues de rivière pendant la saison des pluies. Au-delà de la gestion des quotas et d'étudier l'impact de la chasse, du réchauffement planétaire, de la consommation de viande de gibier dans les grands centres urbains, la mise en contact entre les chasseurs du Gabon et ceux d'Amazonie a apporté des résultats intéressants. Comme le dit Fan Fleet, ils font face à des challenges similaires. Je pense qu'il y a moins de différence entre un chasseur au Gabon et un chasseur en Amazonie qu'entre un chasseur du Gabon et un citadin du Gabon. Fin de citation. Bien sûr, ils ne parlent pas la même langue, mais peuvent s'échanger des photos via WhatsApp. Petit troll pour les amis anthropologues qui nous écoutent. Même les chasseurs en pleine Amazonie ont WhatsApp. Il serait temps de vous y mettre aussi. Bref, je m'égare. Les chasseurs du Gabon ont été très intéressés par ceux de Colombie, quand ils ont vu qu'ils plantaient certains arbres fruitiers pour attirer certains animaux. Les chasseurs disent qu'ils chassent beaucoup plus loin que leurs grands-parents, et que c'est possible que ce soit à cause de la chasse et de l'exploitation du bois qui enlève ou exploite les arbres fruitiers. Les chasseurs du Gabon ont donc pensé à replanter certains arbres proches de leur village pour y faire revenir les animaux et diminuer les temps de voyage pour la chasse. Bref, un exemple plutôt cool d'utilisation de la technologie, tant pour gérer l'impact de la chasse sur l'écosystème local que pour permettre à des chasseurs qui ne se seraient jamais rencontrés de collaborer ensemble.
T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur. Hein.
Maintenant que je vous ai amené à réfléchir sur la nature et sa modification perpétuelle par, entre autres, l'activité humaine, que ce soit sans réflexion ou avec une tentative de gestion avec l'exemple des chasseurs, vous devriez être prêt à savoir où je veux en venir. À chaque fois que je suis en voyage, je réfléchis au tourisme, à l'impact de ce que je fais ou non, et au futur des endroits où je vais. Et à chaque fois, cette même idée, partagée par un grand nombre de voyageurs. Il faut visiter les endroits avant qu'ils ne changent trop. Si on y va trop tard, tout est foutu. Nous luttons contre la montre. Nous faisons, pour pousser le truc plus loin, du tourisme d'extinction. Ça tombe bien. J'ai sous les mains un article du Guardian titré « Les Inuits craignent d'être submergés par le tourisme d'extinction qui descend sur l'Arctique ». Sous-titré « La visite de bateaux de croisière géants va apporter des touristes et de l'argent vers le passage nord-ouest, mais la peur grandit pour les locaux et leur écosystème ».
Greenpeace, il faut sauver les dauphins, SOS, l'Antarctique ne va pas très bien, tous les arbres sont nos amis. L'argent vous a rendu aigri, de Kingston jusqu'au Sable d'Olonne. On se bat contre Babylone, les patrons et les politicos. L'argent vous a rendu pas beau, peace. Il faut sauver les dauphins, SOS. L'Antarctique ne va pas très bien, comme les montagnes et les océans. L'argent vous a rendu méchant.
Mais je trouve que c'est vraiment une bande de défaitistes. Laissez-moi vous parler du Crystal Serenity, un navire fantastique. Comme le dit la brochure, l'expédition ultime pour les vrais explorateurs. Le Crystal Serenity repart pour le passage nord-ouest en 2017, promettant une aventure sans précédent et un luxe inégalé. Suivez les pas des intrépides explorateurs pendant que vous voguez au milieu de paysages incomparables et de grands glaciers, d'étourdissants fjords et une faune sauvage rare, pendant que vous en apprenez plus sur la culture arctique et ses peuples fascinants. 32 jours de croisière d'Anchorage à New York. Profitez de la Crystal Penthouse avec véranda, une suite de 125 mètres carrés avec un salon spacieux, une salle à manger, une véranda privée, un large choix de vins et de liqueurs, un serveur personnel, un sound system Banquet Olufsen, des écrans plats dans le salon, dans la chambre et même dans les toilettes. Une toilette pour les invités au cas où un ours blanc vient prendre un verre, j'imagine. Une penderie, une bibliothèque, un espace de travail, une salle de bain avec jacuzzi avec vue sur l'océan, une douche séparée et un frigo parce que c'est probablement super utile en Arctique. Tout ça pour un prix dérisoire de 120 000 $. Chers auditeurs, je compte sur vous. Pour vous, c'est quelques dollars par mois sur Patreon. Pour moi, c'est un mois de voyage dans l'Arctique. Ok, plaisanterie à part, même si pour moi c'est un poil too much, j'ai pas besoin de télé dans les toilettes, hein, pour ça j'ai mon iPhone, c'est vraiment une croisière qui a de la gueule, et la chambre la moins chère est seulement à 22 000 $. Pour 32 jours de voyage, ça va. Vu que je suis suisse, donc capitaliste évidemment, de droite, je trouve cool que les gens riches aient des moyens de dépenser leur fric, et une croisière ça me paraît quand même un peu moins con qu'une Ferrari. Là où c'est plus embêtant, et je reviens à l'article, c'est l'impact de telles croisières. Et pas forcément la meilleure. Par exemple, ils vont visiter un petit village inuit, celui de Ulukaktok, dans le Nord Canada, doublant en un seul instant sa population de 400 habitants. Notez que c'est souvent le cas avec les croisières, même en Méditerranée, et que c'est encore pire quand plusieurs bateaux de croisière s'arrêtent au même endroit. Là où, en Méditerranée, on est sur des écosystèmes et des communautés moins fragiles, ou déjà complètement bousillées, diront certains, on est sur un plan beaucoup plus fragile en Arctique. Imaginez, une seule croisière de ce type représente à peu près une augmentation de 10 fois le nombre de passagers transportés en Arctique. Ce qui amène pas mal de controverses, vous vous en doutez. Le professeur Michael Byers dit, je cite, « Faire cette croisière est uniquement possible parce que les émissions de carbone ont tellement réchauffé l'atmosphère que les glaces de l'Arctique disparaissent en été. » La terrible ironie, c'est que ce bateau, qui a aussi un hélicoptère pour faire de l'observation et un rapport passager-staff très élevé, a une énorme empreinte carbone qui va rendre les choses encore pires en Arctique. Parce que, je vous l'ai pas dit, mais c'est pas un petit bateau. Il y a 655 membres d'équipage et 1070 passagers. Et qu'on s'entende, parce qu'il faut tirer sur les bonnes cibles. Les clients sont incités à avoir un code de conduite irréprochable, très strict. L'air, l'eau et les déchets seront bien recyclés et pas relâchés bêtement en pleine mer. Le bateau utilise un carburant spécial, ils ont des moteurs spéciaux, etc. Bref, c'est très bien géré et en soi, son impact réel est, disons, très relatif. Le souci, c'est que c'est la porte ouverte au tourisme de masse en Arctique, avec d'autres opérateurs qui auront peut-être moins de scrupules et de contrôles. Comme le dit Byers, ça peut finir en un désastre. La gestion des déchets à des échelles beaucoup plus grandes serait, par exemple, impossible dans une telle région. Les Inuits font déjà face à d'énormes problèmes. La glace disparaît, rendant impossible le voyage par motoneige tant pour la chasse que pour visiter des amis. Du coup, les communautés se fragmentent, un problème accéléré par la fonte de la calotte glaciaire, rendant l'exploitation minière et pétrolière possible, facilitant le tourisme et les bateaux de transport commerciaux. Ajoutez à ça le problème de l'alimentation, les Inuits n'ayant pas de ferme et dépendant uniquement de ce qu'ils trouvent sur la glace et dans la mer. Ça devient de plus en plus compliqué, le tourisme va juste empirer la situation. Ouais, mais c'est juste un bateau, me direz-vous. Oui, mais non. Parce que les mecs, c'est des capitalistes. Ils font du business. Et forcément, un bateau une fois par année, c'est bien, mais c'est tellement petit joueur. Je vous présente le Crystal Endeavour, qui va beaucoup plus loin. Pas un seul hélicoptère, mais deux. Et en plus, il y a deux sous-marins capables de transporter 7 personnes. Un véhicule sous-marin télécommandé capable d'aller voir le Titanic et autres trucs coulés, 8 zodiacs électriques, des jet skis, des scooters sous-marins, que des trucs super cool. Seulement 200 passagers sur ce navire, mais il peut rester en Arctique pour une saison beaucoup plus longue, grâce à sa certification, d'aller encore plus loin dans son exploration. Évidemment, c'est les premiers, et de loin pas les derniers, c'est pas fou de penser qu'il y en aura des dizaines dans quelques années. Parce que clairement, ça sera super rentable. Là où c'est du tourisme d'extinction, c'est que la perspective des Inuits est à peu près aussi rigolote que celle des ours blancs. Et je miserai peut-être plus sur les ours blancs que celle des Inuits. Évidemment, ces deux bateaux ne sont pas les principaux responsables de cette situation-là. Après tout, ils n'étaient pas là avant et on est quand même là. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'ils participent à l'accélération de phénomènes déjà présents. Ça me rappelle un peu les musées d'histoire naturelle, qui demandaient des spécimens d'animaux en voie de disparition pour leur collection, faisant littéralement disparaître les derniers individus. Là encore, c'est facile de tirer sur des touristes qui vont en Arctique. Pour arriver enfin à ma conclusion, j'aimerais simplement dire que je pense qu'on fait presque tous la même chose. Et que c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à les critiquer dans le fond. Explication. À l'heure où j'écris ces lignes, je suis sur l'île de Lombok, en Indonésie, au pied du volcan Rinjani, près du village de Senaru. Je suis dans un hôtel où il y a 3 jolis bungalows, dans les rizières, avec un chat sur les genoux, 2 chevaux qui se promènent, un singe, des perroquets, et j'ai même la chance d'être le seul touriste ici. Niveau macro, Lombok est touristique sans l'être partout, mais Bali devenant trop mainstream, de plus en plus de voyageurs viennent à Lombok. Si des coins comme Senggigi sont déjà grillés et en perdition suite à des décisions politiques bancales, d'autres sont encore en plein boom, comme les Gili par exemple. D'autres coins sont plus calmes, un peu plus isolés, pour l'instant en tout cas. Un peu comme là où je suis. Et visiblement, ça va rester comme ça, vu qu'il y a une sorte d'interdiction d'utiliser les terres des rizières pour en faire des hôtels depuis quelque temps. Il reste que je suis content d'y être. C'est magnifique, et en même temps, j'ai le sentiment d'avoir un assez bon timing. Parce qu'entouré de 40 autres bungalows, avec un Starbucks et un Burger King en face, l'ambiance serait différente. Et c'est pas seulement le tourisme d'ailleurs. De ma petite terrasse, je vois la mer à 10 km. Une vue de fou, franchement. Mais un grand projet, de plus de 3000 hectares est à l'étude. La construction d'un port de plaisance et commercial encore plus grand que celui de Singapour, avec des tours style Dubaï. C'est un méga projet qui a des chances de foirer ou de demander des dizaines d'années de construction. Mais il y a des chances qu'un jour je pourrais dire « c'était mieux avant ». À l'époque, de ma terrasse, je voyais l'Irisière et la mer. J'avais pas la vue sur des dizaines de tankers et des milliers de containers. Le terme de tourisme d'extinction est probablement trop fort, quoique. Les forêts ont évolué et changé au contact de l'homme. Les îles ont été transformées. On peut dire qu'on est juste dans la suite de l'histoire, on est quelque part sur la timeline du changement. Et peut-être que dans 100 ans, un gars au même endroit que moi dira « Cette vue en plongée du port et de ses tours magnifiques est juste incroyable. Dire qu'avant ils se contentaient d'une pauvre plage moisie et d'un bleu uniforme à l'horizon, et qu'ils allaient bouffer du riz plutôt que des sushis. Les cons. Après tout, on va bien faire du tourisme à New York ou à Chicago et visiter la marina de Singapour pour leurs architectures. Lombok a aussi le droit de vouloir ça, et ça sera peut-être magnifique. Après tout, c'est leur choix. Mon dernier point avant de vous lâcher, c'est peut-être ce que j'essaye d'expliquer dans ce podcast. Arrêtez de voir la nature, la culture et les choses qui nous entourent comme des éléments statiques immuables, mais les voir comme étant en changement perpétuel. Et ça, ça nous permet de prendre le rôle d'acteur et non pas seulement de simple gardien comme certains voudraient l'avoir. Parce que vous, moi, tous, nous changeons tout ce que nous touchons, que nous voulions le garder comme ça ou pas. En choisissant une guest house plutôt qu'un grand hôtel, en allant dans un petit warung plutôt qu'un Burger King, en choisissant des compagnies plus respectueuses de l'environnement, ou en tout cas ce qu'elles essayent de dire et de faire, plutôt qu'en allant toujours au plus cheap, qui est parfois pas très regardant, en échangeant des idées avec des locaux, plutôt que de rester absolument enfermé entre touristes, en achetant de la bouffe locale, en choisissant de ne pas acheter de drogue ou d'aller aux putes. Bref, tout ce que nous faisons favorise certaines choses et mène d'autres à l'extinction. Tout comme nos ancêtres ont favorisé certaines essences et certains animaux, qui sont encore là aujourd'hui, nous pouvons favoriser certaines choses qui seront là demain. Parce que, bêtement, la meilleure manière de ne pas transformer l'Arctique en un grand Club Med, c'est de ne jamais y aller. Ah, je suis déçu, hein. Moi j'aimerais bien aller faire du jet ski en Arctique, hein. Franchement, ça doit être trop cool, il faut pas rêver, c'est génial. Et en même temps, faudrait que je fasse pas. Et je pense qu'il y a des endroits où personne ne devrait aller, pas seulement l'Arctique, hein. Pour les laisser tranquilles, pour ne pas tout casser, pour les épargner. Un peu comme certains anthropologues et voyageurs qui ne parlent jamais de certains endroits qu'ils ont adorés. Juste pour qu'on leur foute la paix. Et vous, amis voyageurs et tourisme d'extinction, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous attendez, comme moi, l'expérience ultime du tourisme d'extinction ? Le dernier restaurant avant la fin du monde ? Don't.